chronique environnement de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue. Et on a la chance de réaccueillir Mali Lessard-Terrien dans les studios de CKVM pour faire un petit retour sur son expédition sur la rivière du Moine. D'abord, bonjour Mali.
Bonjour.
Tu reviens d'une très belle expédition. On a eu la chance d'en parler un petit peu à micro fermé, mais je voulais qu'on garde le plaisir pour les auditeurs. Où es-tu allé précisément?
Oui, alors je reviens d'un trip de canot camping sur la rivière du Moine, qui est une rivière absolument mythique au Québec, bien connue des amateurs et amatrices d'eau vive. On parle d'une rivière classique, très sportive, avec tous ses rapides, de classe R1 à R3, quelques R4 aussi pour ceux qui s'y connaissent, avec des chutes à portager.
OK. Puis donc, j'imagine que ça découle quelque part, cette rivière-là?
Oui, elle se situe dans l'arrière-pays du Témiscamingue, est entre la frontière du Témiscamingue et du Pontiac, qui est en Outaouais. Nous, on est parti du kilomètre 64, donc au pont du lac Benoît. Puis pour arriver là, on a passé par la ville de Témiscamingue, puis la zec de Restigot, et enfin la zec du Moine, qui est c'est environ tout ça à 3 heures de route là, de Ville-Marie, en empruntant des chemins de bois. Et la rivière aboutit dans la rivière des Outaouais, donc proche de Rapide des Joachins, en face du domaine Driftwood, là, pour ceux qui s'y connaissent, qui est un parc provincial en Ontario.
OK. Est-ce que c'est une aventure pour monsieur, madame, tout le monde, ou c'est peut-être plus pour des gens plus expérimentés?
C'est vraiment une aventure pour les gens expérimentés, je dirais, parce qu'il faut bien maîtriser la technique de canot de rivière, savoir lire la rivière aussi, donc regarder les rapides, savoir où on va passer. Aussi, idéalement, avoir un cours en secourisme en milieu éloigné ou sauvetage en eau vive, c'est toujours un plus. Parce qu'il faut être vraiment complètement autonome là, au niveau de l'équipement, la nourriture, le camping, savoir lire les cartes, mais aussi au niveau sécurité.
Justement, même si on est expérimenté, comment on se prépare pour ce genre d'expédition-là, que ce soit de façon mentale ou même, comme tu le disais, avec le matériel comme tel?
Bien, d'abord, ça prend beaucoup de recherche. Donc, regarder des cartes, lire des récits d'expédition, parler à des gens qui l'ont déjà fait. Apprendre aussi à connaître les membres du groupe. C'est quoi leur expérience, leur état de santé. Par exemple, nous, on était un groupe de 8. Puis sur les 8, je connaissais juste déjà 4 personnes. Donc, il y avait la moitié du groupe à reconnaître.
Mais c'est bien de découvrir les 4 autres ou les 3 autres, justement, pour s'assurer qu'on n'aura pas nécessairement de surprise. On va être un peu préparé à la situation. Vaut mieux toujours prévenir, j'imagine, que guérir.
Exactement. Okay. Donc, savoir les préférences alimentaires des gens ou leur état de santé si on est malade. Ou des médicaments à prendre, par exemple. Aussi, on a fait un menu. Donc, chaque membre de l'équipe s'occupait de 3 repas qu'on cuisinait sur le feu pour tout le monde. On a privilégié des produits maison ou locaux. On se faisait des repas 3 services le soir. Donc, on manquait vraiment pas de nourriture. On était bien nourris.
Et est-ce que je vois, là, crêpes, gratin de pommes de terre et bacon, burrito, déjeuner, gruau. Écoute, pas de la nourriture d'astronaute desséchée dans un sac. Vous vous êtes faite à manger, Mali, là.
Exactement. De la grande gastronomie en plein air, je dirais. Nos dîners, ça ressemblait à du sandwich pain maison. On avait aussi des salades repas, du saucisson, des fromages. Puis les soupers, comme je disais, 3 services. Donc, on commençait avec de la crème de maïs, hein, c'est de saison. Mm-hmm. Des potages, craquelin fromage. Ensuite, s'en suivaient des repas très nourrissants, comme des pâtes, du curry, des soupes repas. Puis comme dessert, toujours sur le feu, on se faisait cuire des brownies ou on faisait des s'mores. Puis on a même eu des grands-pères dans le sirop aux pommes.
On se gâte un peu malgré l'effort fourni durant la journée. Et si on parle d'équipement comme tel...
Oui, alors l'équipement de camping, bien sûr. Donc, tout ce qu'on a besoin pour dormir dehors. Donc, tente, matelas, sac de couchage, des vêtements chauds aussi parce que les nuits commencent à être fraîches au mois de septembre. Puis, on avait tout ce qu'il fallait pour cuisiner sur le feu. Donc, une grille, toutes des poêles ou des chaudrons qu'on peut mettre sur le feu.
Oui.
Et tout ça, c'était rangé dans des sacs étanches, comme des sacs au sec ou des barils, pour être sûr que si on chavire ou qu'il y ait de l'eau qui embarque dans le canot, bien qu'on garde nos chose au sec.
Effectivement. Puis, comme tu l'as dit, il faut que ce soit étanche. Donc, et que tu sois capable de l'amener dans le canot. Ça rentre serré un peu. Donc, c'est des choses qu'on peut tirer avec nous, traîner avec nous quand on est en canot.
Effectivement. Donc, nos gros sacs sont tous équipés de bretelles. Comme ça, on peut se les mettre sur le dos si on a à faire des portages, par exemple, pour détourner, au détour d'une chute. Mais on peut confortablement les porter.
Et c'est du matériel qui est disponible, bien sûr, à la coop de l'arrière-pays.
Exactement.
Comment ça se déroulait, là, une journée typique, mettons, là, dans votre expédition? Raconte-nous ça.
Donc, on se levait avec le soleil, puis on était chanceuses, il a toujours fait beau.
Oui.
Alors, on préparait le déjeuner, chacun notre tour. Ensuite, on rangeait le matériel, puis on commençait à vironner vers 9 heures sur la rivière. Et la rivière, il y avait des alternances de sections calmes, on faisait juste avironner en jasant, ou il y avait des rapides où là, on débarque du canot, on va étudier le rapide, trouver notre ligne de passage, mm-hmm. et puis on descend joyeusement et on continue. On avait décidé d'avancer le plus possible dans la journée, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on était très, très efficace et on faisait beaucoup plus de kilomètres dans la journée qu'on pensait. Donc, on a décidé de faire des demi-journées d'avironnage pour pouvoir profiter de nos après-midi là, pour se baigner, lire, explorer les alentours parce qu'on voulait en profiter au maximum.
C'est un beau problème, ça, façon de parler, de dire, écoute, il faut qu'on meuble du temps parce qu'on est rendu trop performant dans la journée. Donc, on se trouve du plan B comme tel. Là.
Effectivement. Bien, en fait, c'est parce qu'on ne connaissait pas la rivière. C'était la première fois qu'on y allait. Mm-hmm. Puis, on avait étudié les cartes, le site Internet. On voyait que le niveau d'eau était très, très bas sur la rivière. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de roches qui ressortent dans les rapides.
Oui.
Ça peut prendre plus de temps à descendre. Il faut peut-être faire plus de portage ou de la cordelle, qu'on appelle. Donc, on avait prévu plus de temps que nécessaire. Puis finalement, ben, on n'en a pas eu besoin.
Et là,
on a bien profité.
Sur l'eau, comme ça, si on est adepte de la photographie, là, ça prend-tu un wetsuit à iPhone pour pouvoir faire de la photo en toute sécurité?
Effectivement, il faut des sacs étanches pour mettre l'iPhone. Donc, il y en a qui c'est possible de prendre des photos à travers.
Oui.
Mais pour ceux qui ont amené leur gros appareil photo là, de qualité, ben là, ça prend aussi des caissiers étanches. Non seulement étanches, mais aussi avec des petits coussinets dedans
oui.
là, pour éviter les chocs.
Effectivement. Est-ce qu'il y a des attraits particuliers dont tu voulais nous parler de la rivière du Moine?
Oui, alors la rivière du Moine est reconnue pour ses nombreux rapides. Ça rend l'expédition très excitant. Il y a aussi des sites de camping magnifiques avec des vues incroyables ou des gros pins centenaires. Puis c'est tout aménagé par les amis de la rivière du Moine.
Mm-hmm.
Il y a aussi un super beau sentier de randonnée qui fait tout le long de la rivière là, qu'on peut profiter. Il y a la grande chute qui est vraiment impressionnante. Puis il y a des plages de sable aussi là, entre les petites chutes. Donc,
wow.
C'est vraiment super pour en profiter pour la baignade. Et aussi, on a été témoin de nombreuses observations de faune, comme
oui.
le pigargue à tête blanche, le balbuzard pêcheur, des pigbois, un orignal, donc une mère avec son petit.
Ben oui!
Plusieurs huttes de castors qu'on a vues, terriers de loutre, des huards, des arles, beaucoup d'oiseaux chanteurs. C'était fantastique.
Hey, mais une pigargue à tête blanche, c'est quand même assez rare aussi, le fameux aigle d'Amérique, façon de parler, ça devait être assez majestueux à voir, même si c'était de loin. Hein?
Effectivement, mais on l'a vu quand même de proche,
oh.
puis on en a vu à tous les jours.
Wow.
Donc, il nous survolait, il nous regardait, ou on le voyait de loin. On a vu aussi des adultes et des jeunes qui n'ont pas encore la tête blanche
oui.
ou la queue blanche. Donc,
c'est ça devait être impressionnant.
Magnifique. Tout
Est-ce
à
que
fait.
Tu as peut-être d'autres suggestions en terminant pour les gens qui nous écoutent, que ce soit, tu sais, parce que là, on a parlé d'un parcours expérimenté, mais du côté des novices et intermédiaires, peut-être?
Effectivement. Donc, pour les novices, il y a un énorme potentiel d'exploration pour toute la Zequipawa, plutôt en lac. Donc, il y a des milliers d'îles à découvrir, des
mm-hmm.
baies aussi. L'eau est cristalline, c'est magnifique. Je vous recommande un petit détour vers la baie du Canal, qui est exceptionnelle, et aussi dans le secteur de l'île aux fraises de la CEPAC du parc Opémican.
OK. Pour les intermédiaires, peut-être?
Oui, alors la rivière Sasaginaga, qui se fait très bien sur 3 jours, aussi en eau calme, alternance avec lac et des superbes sites de camping.
Et, bon, à part la rivière du Moine, un ou des sites pour des personnes un peu plus expérimentées?
Oui, la haute rivière Kipawa avec des rapides super le fun. Les chutes Turner qui sont magnifiques. Il y a un beau site de pêche aussi. Et ça se termine dans le lac Serre avec des superbes plages de sable. Puis sur une des îles du lac Serre, on peut trouver des Amazoniques, qui est une pierre turquoise magnifique et unique au Témiscamingue.
Et comme on le sait, tu travailles en partenariat avec l'office du bassin, avec l'organisme du bassin versant du Témiscamingue. La question qu'on voulait te poser en terminant, à quoi faut-il penser là, pour s'assurer de la bonne santé des cours d'eau quand on part à l'aventure ou qu'on part d'un site, justement?
Oui, bien, une bonne gestion des eaux usées. Donc, amener du savon biodégradable et faire la vaisselle dans des bacs pliables et jeter l'eau sale et les restants de nourriture dans la forêt plutôt que dans les cours d'eau, mm-hmm. parce que les micro-organismes du sol forestier sont vraiment mieux adaptés pour décomposer les résidus organiques.
OK.
Aussi important de rapporter tous ces déchets et de les jeter à la poubelle une fois revenus d'expédition. On veut laisser les sites propres.
Oui.
Et aussi, très important, laver les embarcations et votre matériel au retour entre chaque plan d'eau pour éviter de transporter des espèces exotiques envahissantes.
C'est, je pense, la norme. Et avec les stations de lavage un peu partout, sinon, ben, tu sais, canoë et kayak, c'est plus petit, ça peut se faire directement à la maison. C'est plus prudent et ça permet justement de pouvoir repartir ou presque sur le qui-vive si on se fait inviter par une gang pour une autre expédition.
Exactement.
Malie Lessart-Terrien, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. On vit l'aventure en t'écoutant, on boit tes paroles tout de suite. Ça donne vraiment le goût de partir comme ça à l'aventure sur un cours d'eau. Merci d'avoir pris du temps avec nous à CKVM.
Merci, Simon.